Bonjour à toutes et à tous, chers membres de l'Ordre. Merci de nous rejoindre pour ce podcast constitutif du complément du bulletin de l'Ordre des experts comptables de mars 2024. Vous verrez que, comme d'habitude, dans l'éditorial signé par Monsieur Delvaux, nous avons voulu mettre l'accent sur un certain nombre d'éléments et notamment nous nous basons toujours sur les questions qui sont posées par nos membres au helpdesk de l'Ordre. Ici, ce mois-ci, nous allons concentrer notre attention sur notamment la problématique des comptes courants débiteurs enregistrés dans des entreprises, dans des comptabilités d'entreprises, de sociétés notamment. Et donc, nous voulions attirer votre attention sur le fait que de plus en plus, les chambres des entreprises en difficulté, mais aussi en cas de difficulté de l'entreprise, soit en PRJ, soit en faillite, eh bien, les curateurs ou les liquidateurs mettent systématiquement en cause la responsabilité des administrateurs et des actionnaires qui font preuve, en tout cas de manière répétée, d'une gestion contraire à l'intérêt même de la société. En effet, dans la plupart des entreprises en difficulté, un des clignotants détectés par les juges professionnels et par les juges consulaires, ce sont l'existence, mais aussi l'accroissement de comptes courants débiteurs dépassant largement les capacités de remboursement, soit de l'administrateur, soit de l'actionnaire, si l'un n'est pas l'autre en même temps. Et émet ainsi, ce compte courant débiteur met ainsi à mal les fonds propres, c'est-à-dire le patrimoine de la société. Nous rappelons que le fait d'avoir un compte courant débiteur, s'il est très peu important, on peut encore comprendre du moment qu'il est remboursé à très court terme, mais en général, ce que nous constatons, c'est que les comptes courants débiteurs augmentent d'année en année. Et donc, quelquefois, atteignent des sommes faramineuses, et ceci constitue une faute de gestion sanctionnable civilement et contractuellement, et même dans certaines circonstances pénalement. Notamment, et là je souligne, lorsque l'administrateur et ou l'actionnaire régularise des montants prélevés sans aucune pièce justificative probante par la pour la société, en tout cas, par une fiche fiscale de salaire à charge de la société qui n'a effectivement jamais payé le précompte sur ces montants rétroactivement régularisés. Ceci, en tout cas cette pratique-là, constitue une fraude fiscale et sociale que trop souvent nos confrères et nos consoeurs, dont nos confrères et nos consoeurs ne perçoivent pas la gravité. Il convient donc de vous mettre en garde face à cette problématique de compte courant débiteur d'un montant excessif et d'un montant qui ne cesse de croître. Et pour vous donner quelques conseils pratiques, repartons sur les bases de notre déontologie. Dans la lettre de mission, mais aussi dans une lettre particulière de recommandation, et cette lettre de recommandation peut être soit annuelle, lorsque vous avez terminé la clôture des comptes, moi je la conseille en général beaucoup plus rapprochée, c'est-à-dire au minimum tous les semestres. Dans votre lettre de mission, pour toute mission que vous faites, que ce soit tenue de comptabilité, mission d'audit contractuel ou autre, dans le paragraphe responsabilité de la direction, je voudrais quand même que les confrères et les consoeurs indiquent qu'en fin d'exercice, l'administrateur ou l'actionnaire s'engagera à rembourser à chaque clôture d'exercice les montants repris dans l'historique du compte 41, autres créances. La réouverture en début d'exercice suivant, parce que évidemment la pratique pourrait être de dire je rembourse au 31 décembre et je réouvre par une écriture de réouverture le compte courant débiteur au 1er ou au 2 janvier de l'année suivante, eh bien, cette pratique est tout aussi répréhensible et démontre même la volonté persistante de l'administrateur de mettre en péril les intérêts de la société et donc c'est une cause aggravante de responsabilité. Faisant référence à cet engagement, l'expert comptable fiscaliste, l'expert comptable certifié, le conseil fiscal certifié n'enregistreront aucune écriture permettant l'existence d'un compte courant débiteur démesuré. Notamment si l'entreprise a déjà un actif net négatif ou risquerait de le devenir. Parce que vous savez qu'il y a l'effet grave et concordant, qu'il y a la procédure d'alarme, mais ici, le compte courant débiteur largement utilisé est aussi un fait grave et concordant. Au cas où, exceptionnellement et de manière tout à fait provisoire et occasionnelle, des écritures seraient donc passées dans ce compte courant débiteur, le professionnel doit charger un avocat, ce sont des conseillers aussi de l'entreprise, d'établir une convention de prêt à durée déterminée et dont l'échéance devrait se clôturer au plus tard à la date de clôture des comptes et reprenant un taux d'intérêt applicable sur le marché bancaire. Si un compte courant débiteur est constaté non remboursé, il revient au professionnel du chiffre de déclarer au précompte mobilier les intérêts mentionnés à ce contrat et donc d'en faire faire le paiement par qui de droit. Trimestriellement, lors de des déclarations TVA, il est aussi recommandé, vous allez me dire encore quelque chose à faire signer par le client, mais c'est pour sauvegarder votre responsabilité comme professionnel, il est recommandé d'imprimer l'historique trimestriellement de ce compte courant débiteur de manière à ce que la personne qui en bénéficie soit bien informée régulièrement de l'accroissement de ce compte courant débiteur. Parce que si vous ne le faites qu'à la fin de l'exercice comptable, effectivement, lui va ne se rend pas compte de ce qui, enfin, se rend compte ou ne se rend pas compte de l'ampleur de ce compte courant débiteur. Et donc, il pourrait prendre prétexte de son ignorance ou de sa négligence et contester en fin d'exercice le montant de ce compte courant débiteur, d'où l'intérêt aussi de sortir un historique de ce compte courant débiteur et de le faire signer systématiquement par la personne qui en bénéficie au minimum semestriellement, si pas trimestriellement, si vous le faites déjà annuellement, c'est déjà pas mal, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus, je dirais, précurseur de sauvegarde de votre responsabilité en insistant auprès de la personne qui en bénéficie qu'en faisant de la sorte, vous mettez aussi sa responsabilité comme administrateur ou actionnaire à l'abri d'éventuels problèmes ultérieurs, notamment au sein du tribunal. Lors de l'assemblée générale annuelle, si ce compte courant débiteur persiste dans les comptes, il convient de mettre ce point à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle de manière transparente et aussi de manière à ce que l'image fidèle soit ainsi respectée. Certes, dans les grandes entreprises, ce point de compte courant débiteur fera l'objet d'un point particulier. Notamment dans le rapport de gestion au titre de l'article 3.6, paragraphe 1, premièrement du CSA, qui prévoit expressément dans le rapport de gestion d'indiquer les risques et incertitudes auxquels la société est confrontée et en cas de perte avérée. Là aussi, vous devez faire une mention dans le rapport de gestion. Alors, vous allez me dire, oui, mais le rapport de gestion ne concerne que les grandes entreprises et pas les PME. Eh bien, effectivement, si le rapport de gestion ne concerne que les grandes entreprises, et en général, ce point-là est aussi vérifié par le commissaire qui doit se prononcer dans le cadre de son mandat, pour les petites sociétés et les micro-sociétés, un rapport de gestion n'est pas obligatoire. Mais par contre, vous retrouverez une mention particulière, notamment dans l'annexe des comptes annuels, à la ligne 9051 ou du schéma abrégé ou 9500 du schéma micro, où vous devez indiquer notamment si il y a des éléments particuliers qui mettent en cause la continuité de l'entreprise Or, si vous êtes déjà en actif net négatif ou très très proche de la limite, je pense qu'il est essentiel d'indiquer cette mention du compte courant débiteur, de mettre le montant de ce compte courant débiteur et de manière subséquente de mettre les mesures prises pour le remboursement de ce compte courant débiteur. De cette manière-là, ben vous faites une totale transparence dans les comptes annuels des PME et d'autre part, vous indiquerez aussi que ce point a fait l'objet d'une mention particulière au PV de l'Assemblée générale. Alors, à l'heure où les deux instituts vont remettre sur la table la fameuse recommandation concernant notamment la continuité des entreprises, ce point particulier du compte courant débiteur devra, à notre avis, faire l'objet d'un focus particulier dans la recommandation aux professionnels du chiffre, justement pour éviter que qui que ce soit, et notamment les avocats, les curateurs, les liquidateurs, ne remettent en cause la responsabilité qui est d'abord celle de l'administrateur et ou de l'actionnaire, mais aussi de manière conventionnelle, souvent, ils se rattrapent en disant que finalement, l'administrateur ou l'actionnaire, ben, n'est pas un professionnel du chiffre et que donc l'expert comptable, quelque part, a facilité ce genre d'écriture comptable et ce genre d'éléments ayant entraîné les difficultés au sein de l'entreprise. Donc, c'est un élément essentiel sur lequel M. Delvaux, comme d'ailleurs le président des juges consulaires du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles, insiste, puisqu'à deux, il signe l'éditorial de ce bulletin du mois de mars. Je voudrais aussi épingler, parce que vous verrez que les articles dans le bulletin de mars, à la fois fiscal, comptable, audit et déontologique, sont nombreux et je vous engage à le lire attentivement. Je voudrais encore épingler peut-être deux ou trois articles qui me semblent importants. Le premier, sous la plume de François Coutureau, que vous connaissez bien puisqu'il est conseiller général en matière TVA au sein de l'administration TVA, c'est un arrêt de la Cour de justice européenne qui se prononce sur le fait, est-ce qu'un administrateur, personne physique d'une société, au travers des tantièmes qui lui sont attribués, est-il un assujetti à la TVA? Alors, dans l'affaire en cause, rapidement pour vous résumer, la personne qui était en charge, je dirais, l'administrateur en charge de faire des rapports, de réunir les autres administrateurs, de prendre avec eux des dispositions stratégiques sur le devenir de l'entreprise et était aussi chargé de faire un reporting de toutes les sociétés du groupe. Est-ce que cet administrateur qui percevait des tantièmes devait être considéré comme exerçant une activité économique de façon indépendante et donc soumettre les tantièmes à la TVA. Ici, le cas particulier soulevé et soumis à la Cour de justice européenne était un administrateur luxembourgeois, mais toutes choses étant égales, ça aurait pu être un administrateur au sein d'une société belge. Alors, premier élément, c'est que la Cour de justice essaye de déterminer si les tantièmes perçus peuvent être considérés comme une rétribution d'un service. Et là, effectivement, elle considère que l'activité de l'administrateur en question dans une société anonyme, ici c'était de droit luxembourgeois, est-elle exercée aussi de manière indépendante? Donc, exerce-t-il, les tantièmes sont-ils versés en échange d'un service qui est rendu à la société? Et l'administrateur agit-il de façon indépendante? Et donc, pour évaluer l'indépendance de cette activité, la Cour va s'attarder sur la question de savoir si les décisions qui sont prises par cet administrateur sont risquées. En d'autres termes, ces décisions emportent-elles un risque économique? Et oui ou non, l'expertise qu'il fait valoir en faisant son reporting aux autres administrateurs, en les guidant dans des opérations et des décisions stratégiques, est-ce que oui ou non, cela constitue une prestation de service exercée à titre indépendant? Et la Cour, dans le cas précité au travers des faits particuliers du cas qui lui est soumis, arrive à la conclusion que l'activité d'un membre du conseil d'administration d'une société ici anonyme de droit luxembourgeois n'est pas exercée de façon indépendante puisqu'il avait, entre guillemets, des deadlines à respecter, il y avait des obligations dont il était tenu, même si son activité de reporting, de préparation des conseils d'administration, etc., était rémunérée par des tantièmes. Donc, toutes choses étant égales, je trouve que c'est un arrêt important à garder en tête, notamment si la question devait se poser chez nous en Belgique pour les administrateurs de sociétés. Deuxième article que je trouve intéressant, signé lui par Christophe Hansen, qui est avocat fiscaliste, c'est la déduction des loyers ou des indemnités des usufruitiers, des amphithéotes, des superficiaires. Et vous savez que maintenant, il y a une nouvelle obligation déclarative déjà pour les revenus de 2023, donc dans la déclaration IPP qui va être en ligne probablement dès le mois d'avril ou début mai. Et la question était de savoir, la personne physique qui donne en location un immeuble est imposée sur la base différente selon que son locataire, selon l'usage qu'en fait son locataire. En substance, et pour un immeuble à bâti, la base imposable pour le bailleur, c'est le revenu cadastral indexé majoré de 40% si le locataire est une personne physique qui ne l'affecte pas à son activité professionnelle, c'est-à-dire c'est une location purement privée. L'autre base, c'est les loyers et les avantages locatifs perçus par le bailleur, réduits d'un forfait de frais, si le locataire est aussi une personne physique ou une personne morale, mais qu'il affecte quant à lui à l'activité professionnelle. Et donc, la location, dans ce cadre-là, est une location professionnelle. Alors, bien souvent, le bailleur ne sait pas ce que fait le locataire, puisque dans le bail, il est bien inscrit que c'est à l'usage uniquement et exclusivement à titre privé, mais il arrive fréquemment que l'on constate que le locataire, pour une raison ou une autre, parce qu'il fait du télétravail, parce qu'à un moment ou à un autre, il devient activité complémentaire, enfin, toutes les raisons sont possibles, eh bien que, bien entendu, ça engendre de nombreux litiges, et en particulier lorsque le bailleur ignore l'affectation professionnelle qui est donnée à son bien par le locataire. Alors, pour éviter justement ces dérives dont le bailleur n'est pas toujours au courant, fin 2023, et c'est une loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, le législateur a tenté de remédier à ce problème tout en facilitant, faut bien le reconnaître, la tâche des contrôleurs fiscaux. Et cette mesure se traduit par deux nouvelles mesures applicables dès l'exercice d'imposition 24, c'est-à-dire y compris pour les revenus personnes physiques des locations de 2023. En effet, il y a une nouvelle obligation déclarative puisque les locataires devront joindre à leur déclaration fiscale une annexe dont le modèle doit encore être déterminé, mais qui sera sans doute une annexe que vous trouverez sur MyMinFin ou en tout cas comme élément complémentaire à la déclaration TaxonWeb. Cette annexe devra identifier le bailleur. Donc ici, c'est dans le chef du locataire, cette obligation déclarative. L'annexe devra identifier le bailleur et le bien loué, indiquer le total des indemnités locatives payées ou attribuées au cours de la période imposable, ainsi que la partie déduite par le locataire, cette fois-ci au titre de frais professionnels. Cette nouvelle obligation s'applique à tout locataire personne physique qui déduit tout ou partie de ses loyers, ainsi qu'à tout locataire personne morale qui est tenu de rentrer une déclaration à l'impôt sur les revenus, qu'il s'agisse d'une ISOC ou d'une IPP. Les seuls locataires dispensés de cette obligation sont ceux dont les indemnités locatives leur ont été portées en compte par un assujetti à la TVA via une facture ou un document en tenant lieu. Donc ça, c'est vraiment important de retenir ce premier élément d'obligation déclarative de la part du locataire. Et puis en ce qui concerne la déduction des indemnités locatives, la deuxième mesure découlant de cette modification législative consiste à ne plus admettre la déduction des indemnités locatives au titre de frais professionnels dans les deux cas suivants: lorsque le locataire n'a pas respecté sa nouvelle obligation déclarative, donc vous oubliez de mentionner qu'une partie du loyer, en tout cas que vous déduisez une partie du loyer en frais professionnels, ben, automatiquement, ces loyers seront rejetés par le fisc. Et d'autre part, lorsque les loyers portent sur un immeuble ayant fait l'objet d'un bail enregistré gratuitement, si l'immeuble est situé en Belgique ou s'il est situé à l'étranger, qui aurait pu être enregistré gratuitement, c'est-à-dire si l'immeuble est exclusivement affecté au logement d'une famille ou d'une personne seule. Et donc, cette seconde exclusion constituerait un mécanisme de protection des bailleurs dès lors que les loyers relatifs à de tels immeubles d'habitation ayant fait bien entendu l'objet d'un bail enregistré ne sont plus déductibles, les bailleurs ne risqueraient plus, et ça c'est peut-être l'autre face positive de la disposition, ne risqueraient plus d'être imposés suivant le régime des locations professionnelles. Voilà encore un article que je trouvais fort intéressant. Je voudrais encore vous en épingler un qui me semble important, notamment parce qu'il devrait faire l'objet d'une disposition légale avant la dissolution des chambres, puisque vous savez que les élections se profilent le 9 juin et que 40 jours avant cette date-là, ben, il y a dissolution des chambres et que donc plus aucune loi, ni aucun arrêté royal, ni aucune disposition régionale législative ne peut être prise. C'est la problématique du rehaussement des critères de taille de société. Effectivement, pour pouvoir déterminer à la fois d'un point de vue des obligations comptables, mais aussi des obligations fiscales, on sait que l'on retrouve à l'article 1.24 et 1.25 du Code des sociétés et des associations les critères qui permettent de déterminer si on est micro-société, petite société ou grande société. Bien entendu, d'un point de vue comptable, ça a des impacts au niveau des obligations comptables, ça a un impact au niveau de l'obligation ou pas de désigner un commissaire aux comptes. Et bien entendu, vous avez pour celles qui sont en fonction des seuils déterminés considérées comme petites entreprises, il y a une série de dispositions fiscales favorables à ces entreprises-là. Et donc, il faut savoir déterminer dans quel type, dans quelle catégorie d'entreprise on se situe. Ces critères qui sont actuellement repris à l'article 1.24 et 1.25 du Code des sociétés et des associations sont basés en fait sur une directive européenne. Les critères de total de bilan et de chiffre d'affaires doivent normalement être revus tous les 5 ans, ce qui n'a pas été fait depuis 2018 d'ailleurs. Et donc ici, le journal officiel de l'Union européenne a publié une directive déléguée imposant aux droits nationaux des différents États membres de l'espace économique européen de mettre à jour les seuils et par conséquent la Commission, sur base d'un calcul fictif qu'elle a fait, notamment en tenant compte de l'inflation, elle a considéré qu'il était nécessaire d'ajuster de 25% et d'arrondir vers le haut les seuils visés antérieurement au niveau européen. Et donc, pour les micro-sociétés, toujours au niveau européen, mais aussi au niveau des droits nationaux, le total de bilan est fixé à 450 000 et le chiffre d'affaires à 900 000. Pour les petites sociétés, le total de bilan est porté à 5 millions à la place de 4 millions 5 et le chiffre d'affaires net à 10 millions à la place de 9 millions. Et donc, comme je vous le disais, ben là aussi, il faudra que le législateur mette en route très rapidement une disposition de droit interne permettant de, comment dirais-je, d'adapter ces seuils qui seront évidemment d'application pour les comptes annuels clôturés en 2024, ce qui veut dire que se posera la question de savoir pour les assemblées générales de 2024, il faudra se poser la question, reposer la question de quel schéma on remplit. D'autre part, se poser la question, est-ce que l'on est dans l'obligation de désigner un commissaire ou pas? Et d'autre part, ben, de revoir un peu toutes les dispositions fiscales favorables. En principe, comme on augmente les seuils, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. On ne risque pas de perdre, on risque plutôt de gagner à ce que les seuils augmentent, en tout cas au niveau fiscal. Et alors, dernière, peut-être, dernière information que je voudrais souligner, notamment, c'est peut-être plus pour les ASBL. C'est un article qui concerne l'indisponibilité du patrimoine lors de la transformation d'une ASBL en une société coopérative agréée comme entreprise sociale. Il y a pas mal d'ASBL qui ont pris cette option ouverte par le nouveau code des sociétés et des associations. Et là, je vous renvoie vers un récent avis de la Commission des normes comptables. C'est d'ailleurs le premier avis 2024 qui souligne, la Commission souligne que compte tenu de l'énoncé clair, pardon, de l'article 14.42 du CSA, obligeant à dresser une situation active et passive en juste valeur, et pas donc en juste valeur, c'est-à-dire en fair value, telle que l'imposent les normes internationales, les conditions qui figurent à l'article 335, paragraphe 1er de l'arrêté royal d'exécution du Code des sociétés en matière de réévaluation ne s'appliquent pas. La Commission attire l'attention sur le fait que tous les actifs doivent être évalués à leur juste valeur. Il en va de même, à titre d'exemple, pour les placements de trésorerie. Quant à la réserve indisponible correspondant à l'actif net de l'ASBL à la date de la transformation en société coopérative agréée, la Commission des normes comptables précise que dans le nouvel avis, qu'au cas où la valeur d'un actif transféré diminue ultérieurement de ça de sa valeur réévaluée, c'est-à-dire à la valeur à la juste valeur fixée, cette correction ne pourra pas être imputée à la réserve indisponible constituée. Et donc, vous avez aussi dans cet avis important, et c'est peut-être le côté positif des récents avis de la Commission des normes comptables, c'est qu'à chaque fois, ils illustrent ça par des exemples chiffrés. Je vous renvoie à cet avis qui a été commenté par M. Vinck, reviseur d'entreprise honoraire et qui est un contributeur, un auteur du bulletin mensuel de l'Ordre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous ai dit que vous alliez retrouver dans le bulletin de mars pas mal d'autres informations, des topics d'actualité dans différents domaines. Je vous engage donc à le lire attentivement. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver tout aussi nombreux comme membres de l'Ordre dès le mois d'avril prochain. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.